Ilana, Jerusalema, Ikayalami.
Sur Radio Mars, il est 11h06. Allez mes amis, c'est parti pour Mars Africa. Et on va commencer par Abidjan. Elisabeth Gouli est avec nous en direct depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Hamid. Bonjour chers amis auditeurs de la Radio Mars.
Merci, c'est un plaisir évidemment de vous retrouver chers amis à chaque samedi pour l'actualité sportive en Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire. Alors, on va parler du classement FIFA, les éléphants ont perdu une place dans le classement FIFA. On va parler aussi de ces arbitres professionnels de CAF avec la formation qui a débuté en Côte d'Ivoire. C'est quoi la une de vos pages sportives, Elisabeth, ce week-end?
Bon, encore comme la semaine dernière, la Côte d'Ivoire est encore en deuil. Nous avons l'un de nos excellents arbitres qui a été Aboubakar Charaf, qui a été président même de la commission centrale des arbitres. Donc, paix à son âme, il a été inhumé ce mardi. Donc, c'est vraiment une grosse perte encore pour la Côte d'Ivoire dans le milieu du sport après le gardien Zaboli. C'est vraiment une grosse perte pour la Côte d'Ivoire.
Ouais, malheureusement. C'est le foot ivoirien en deuil depuis une semaine. Qu'est-ce qu'on dit sur le classement FIFA? Une place perdue par les éléphants?
Oui, une place perdue par les éléphants. Ben, la Côte d'Ivoire sportive aurait vraiment aimé progresser et non régresser. Mais toutefois, cela ne décourage pas les observateurs du football, ivoirien, les autres exemples, en plus les éléphants, à pouvoir se hisser, comme on le dit, disons, à la première place continentale, s'il le faut. Et donc, quand même, toutefois, cela ne désagrège pas vraiment les ambitions de la Côte d'Ivoire dans les matchs à venir pour les éliminatoires mondiales et Cannes et Cannes.
Ouais, tout à fait. Un dernier mot par rapport à l'arbitrage. J'ai vu que le premier stage au profit des arbitres professionnels de la CAF a débuté la semaine dernière. Il a eu lieu cette semaine en présence notamment du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football. L'idée, c'est d'avoir un arbitrage parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup de polémiques liées à l'arbitrage en Côte d'Ivoire?
Oui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de polémiques liées à l'arbitrage. Et vraiment, surtout cette saison, il y a eu beaucoup de polémiques quand même. Au niveau de la Ligue 2, ça vraiment, on a vu que dans la poule de l'Africa Sport National, l'Africa Sport, qui s'est qui aujourd'hui rejoint l'élite. Il y a eu beaucoup de polémiques et les polémiques continuent. Et dans toutes ces polémiques, l'arbitrage est toujours pointé du doigt. Et donc, c'est vraiment une bonne occasion pour une formation encore des arbitres parce qu'ils sont toujours pointés. Ils sont toujours eux qui sont pointés du doigt, que ce soit bien. Et certains arbitres même qui vont eux-mêmes jusqu'à dire, à faire leur meilleur coup de bas pour dire qu'ils sont corrompus, qu'ils sont même indexés, qu'ils sont sollicités par les clubs, pour les aider lors des matchs et autres. Donc, cette formation arrive vraiment à point nommé pour redorer le blason de l'arbitrage ivoirien qui vraiment ne fait plus l'honneur de la Côte d'Ivoire. Bon. Au passage, je voudrais aussi féliciter la jeune Natacha qui a été retenue, une jeune arbitre qui a été retenue pour la Coupe du Monde féminine des U20 qui aura lieu en Colombie.
Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est une bonne initiative, en tout cas, cette formation, le premier stage au profit des arbitres professionnels de la CAF, donc à Abidjan. Merci beaucoup, Elisabeth. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain dans Mars Africa. Allez, mes amis, après la Côte d'Ivoire, direction Conakry, la Guinée Conakry, pour parler notamment l'actualité très riche en Guinée, puisque la Guinée a joué, face au futur adversaire de l'équipe nationale en pleine préparation pour le tournoi de football masculin des Jeux Olympiques de Paris 2024. La Guinée a battu l'Argentine. Ça s'est passé ce vendredi. 1-0 à la surprise générale. On va parler aussi du porte-drapeau connu depuis cette semaine et tout ce qui se passe lié à l'équipe nationale. Pour en parler justement, c'est un plaisir de recevoir Chérif Alio en direct de Conakry. Bonjour Chérif.
Bonjour Amine. Tout le monde.
Bienvenue sur Mars Africa pour parler notamment de la préparation de l'équipe nationale olympique et cette victoire 1-0. J'ai vu que vous alliez jouer aussi face à l'équipe de France, non ?
Oui, on va parler de ce match amical des préparations pour le compte des Jeux Olympiques. Et oui, la Guinée affrontait hier l'équipe des moins de 23 ans de l'Argentine. Tout s'est bien passé pour la Guinée, puisque la Guinée s'impose sur le score de 1-0, but de Mohamed Souma à la 72e minute de jeu. En tout cas, une victoire qui fait beaucoup de bien au moral de l'équipe amenée par Taba Diawara, avant bien sûr le démarrage des Jeux. Ben voilà, la Guinée s'est bien comportée tout au long de ce match-là. Mm-hmm. Et voilà, c'est un peu plus général tout de même.
L'Argentine,
en tout cas, c'est une très bonne préparation avant le démarrage des Jeux, bien évidemment.
Tout à fait. L'Argentine, futur adversaire des Lions de l'Atlas. Comment vous les avez trouvés Comment elle est cette équipe argentine?
Ben, on va dire que c'est une équipe argentine qui joue très bien. Ça, il faut le souligner, même si bon, il y a pas quand même de grandes stars dans cette équipe-là. Mais c'est une équipe jeune, assez joueuse, qui manie bien le ballon. Voilà. Maintenant, contre la Guinée, il y a eu ce petit coup de sort qui a permis donc à la Guinée de s'imposer. Mais attention, c'est une très belle équipe. Faudrait pas, en tout cas, rester sur ce match perdu contre la Guinée, parce que c'est une équipe argentine qui peut surprendre forcément. Voilà. Mais encore une fois, ça n'enlève rien au mérite des Guinéens qui sont imposés hier 1-0.
Ouais, c'est pas une surprise pour toi cette victoire.
Ou bien... Ah non, pas du tout. C'est pas une surprise. Parce que c'est l'équipe de Guinée aussi des très bons joueurs, notamment Nabi Keïta, qui reste quand même le patron de l'équipe, Amadou Diawara, voilà, entre autres cadres de l'équipe, qui ont su conduire les jeunes vers cette victoire face à l'Argentine.
Justement, à propos de Nabi Keïta, ça sera le porte-drapeau de la Guinée pour les Jeux Olympiques à Paris?
Ah oui, c'est lui que l'État guinéen a choisi comme étant le porte-drapeau de la Guinée dans ces Jeux, et c'est mérité parce que Nabi vraiment, on sait tout ce qu'il représente pour la nation guinéenne. C'est le sportif le plus connu aujourd'hui à travers le monde. Voilà, côté guinéen bien évidemment, pour avoir joué dans les clubs, notamment Liverpool. Un temps, il était le transfert le plus cher en Afrique, vous le savez très bien, avant de chuter littéralement. Mais malgré tout ça, il reste vraiment la star numéro 1 ici en Guinée. Donc ça va de soi qu'il soit le porte-flambeau de cette équipe guinéenne, enfin de la délégation guinéenne lors de ces JO du Paris 2024.
Ouais, c'est assez logique. Petite polémique peut-être liée à l'absence de Mohamed Chérif Camara qui devait faire partie de la délégation. Il a eu un problème de visa. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ben finalement, il est de la partie. Hein. Il a finalement eu son visa. Il est avec l'équipe du côté de la France. Hein, la plus vite qui sera vraiment à suivre de près parce que c'était un génie, je vous le dis. Maintenant, espérons qu'il ait du temps de jeu pour qu'on puisse juger hein, de son talent. À dire vie vraie, c'était un vrai manière de balle. Son surnom, c'est La Masia. Ça veut tout dire, hein.
La
ça veut
Masia,
tout dire.
Ouais.
Voilà, bien, on verra si, il répondra aux attentes, hein, qui sont, placées en lui. Mais je peux vous promettre que ce garçon-là est un bijou. Maintenant, est-ce qu'il va supporter tout le stress, qui l'entoure en ce moment? Est-ce qu'il va supporter, la pression qu'il aura autour de lui? Ça reste à savoir, mais pour l'instant, il est bien couvé. Panabi Keita, parce qu'on a vu la vidéo, du regroupement. Il est tout avec les cadres de l'équipe qui essaient de bien le protéger. On espère qu'il fera, une bonne campagne, lors de ces Jeux Olympiques, bien évidemment.
Et ça va commencer face à la Nouvelle-Zélande. On est de tout cœur évidemment avec nos frères. Ouais. Et on espère évidemment que vous allez réaliser un très bon résultat. Merci beaucoup pour toutes ces informations, précieuses informations. Merci beaucoup à Chérif Alu en direct de Conakry. Autre équipe hein, qui se prépare pour les Jeux Olympiques, il s'agit du Mali. Pour en parler avec nous ce matin, Drissa Nyoyo en direct de Bamako. Bonjour Drissa.
Bonjour Amir, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être parmi nous pour parler de cette équipe nationale olympique du Mali. Alors qui cartonne hein, 3-0, victoire 3-0 contre Bobigny FC, un club de national, c'est bon pour le moral en vue des JO.
Exactement, ça a été quand même une victoire qui va apporter de la confiance aux garçons parce que lors du premier match face à Paris 13 Atletico, ils ont été tenus à l'échec 2-0. Et pour ce match, le sélectionneur Alou Badara Diallo Conti a fait également apporter 9 changements à son effectif pour donner de la chance également à d'autres garçons qui n'avaient pas joué, dont notamment Lassine Soumaoro qui a remplacé un réserviste Mamadou Lamine Ba, également la défense Ibrahim Cissé qui était blessé, qui est de retour, le gardien Oumar Koulibaly et les attaquants Tchemogo Diarra et ensuite Demba Diallo finalement. C'est Tchemogo Diarra qui va ouvrir le score pour le Mali. Ensuite, Demba Diallo va corser l'addition et un doublé. Donc, Tchemogo va signer un doublé hein, pour clôturer donc, cette victoire qui mettra en confiance à coup sûr les jeunes maliens avant leur entrée en compétition mercredi prochain. Face à l'Israël.
Effectivement, au Parc des Princes. Alors, premier match, c'est mercredi prochain face à Israël. Ensuite, on enchaîne avec le Japon. Troisième match face au Paraguay. Un groupe qui semble quand même à la portée du Mali, non?
Ouais, bon, mais il faut éviter de faire preuve de suffisance parce que c'est un groupe également qui a un niveau assez élevé. Hein, parce que le Paraguay, c'est le champion de l'Amérique. Ensuite le Japon qui est champion de l'Asie et ensuite l'Israël qui est demi-finaliste de la Coupe d'Europe de moins de 21 ans. Donc alors que le Mali a terminé troisième du côté de Maroc. Mmh. Donc c'est vrai, quand tu regardes l'Israël, ensuite les autres formations sur le papier, en tout cas tu diras que c'est un groupe à portée du Mali. Mais vu que les aigles n'ont pas été renforcés comme il faut, donc il va falloir beaucoup faire attention et prendre les matchs avec beaucoup de sérieux et de détermination.
Et on sera évidemment supporters du Mali lors des Jeux Olympiques, Inch'Allah, mercredi prochain, donc premier match pour le Mali au Parc des Princes à Paris. Un dernier mot, pardon, j'aimerais que tu m'expliques ce qui se passe par rapport à l'équipe nationale en solidarité avec leur capitaine Amari Traoré, suspendu par la Fédération après la publication d'une lettre critiquant durement la gestion du football national. Les joueurs de l'équipe nationale du Mali ont annoncé la semaine dernière dans une note le retrait de la sélection nationale jusqu'à la levée de la suspension. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la sélection?
Alors, là, c'est le prolongement hein, donc, des événements qui ont débuté depuis le 13 juin. Donc, il faut rappeler ce voyage chaotique du côté de Johannesburg pour aller affronter le Madagascar. Mmh. Donc, le capitaine Amari avait fait un communiqué au nom de ses coéquipiers. Donc, en tout cas, pour parler de ce voyage-là. Donc avant ce voyage, il s'était passé quand même hein, des choses entre eux et des membres du comité exécutif. Donc c'est ce prolongement qui a finalement finir par être su par tout le monde à partir du 13. Ensuite, il y a la fédération qui avait sorti une lettre de mise en garde pour demander aux joueurs qui doivent faire preuve de réserve. Donc après, les joueurs ont estimé que c'était pour les également laisser entre les mains des supporters suite à des résultats décevants pour qu'ils soient également critiqués. Alors les joueurs également vont mettre en garde et vont également sortir un communiqué pour notamment dénoncer la gestion du comité exécutif. Et là, ce qui va finalement amener le comité à convoquer le capitaine Amari pour 48 heures. Donc c'est qu'il va finir par répondre également à une lettre pour dire que les 48 heures, pour des raisons professionnelles et personnelles, ne le permet pas d'être là. Donc à la fin, c'est le comité exécutif qui a pris une décision. Finalement, une décision qui n'est pas motivée sur le plan statut réglementaire pour sanctionner. Donc ce que les autres également ont compris et dit que bon, il n'était pas le seul, comme le capitaine avait souligné dans sa lettre en réponse à la convocation de la fédération pour dire qu'ils étaient au moins une quarantaine de joueurs qui avaient, à l'issue d'une concertation commune, avaient décidé de faire ce communiqué. Donc c'est pour ça, suite à cette décision qui a été prise, et une décision, donc il faut le reconnaître, qui n'est pas motivée, dont on ne connaît pas également d'où sortent les motivations réglementaires. Donc finalement, les joueurs ont estimé que donc finalement c'était pas le capitaine jeune et que c'était seul. Si le capitaine était suspendu, ça veut dire qu'eux aussi, ouais, ils sont suspendus. En tout cas, en attendant, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a pris la situation en main. Et ensuite, bon, on a appris également que le secrétaire général du ministère avait été limogé et relevé de son poste de secrétaire, avait remplacé par un Modibo Traoré. Et donc là, on attend pour l'instant, en attendant, en tout cas, des discussions quand même, d'après mes informations, sont en cours pour essayer de faire ramener les deux cas à la raison, pour qu'en septembre prochain, les Aigles puissent venir et défendre valablement les couleurs nationales afin d'aller chercher cette qualification pour le Maroc et la CAN en 2025.
Et on l'espère évidemment, le plus important, c'est l'équipe nationale et les Aigles du Mali. Merci beaucoup pour toutes ces informations à Adrissa Niogno. Et je te donne rendez-vous le week-end prochain dans Mars Africa, après le Mali, après Bamako, direction Yaoundé, le Cameroun. Avec nous ce matin, David Nzima, pour parler notamment, évidemment, encore et toujours de Samuel Eto'o. Alors Samuel Eto'o qui impose la veste aux entraînements. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, qui décide de majorer sans consultation le salaire des joueurs et entraîneurs des équipes de football professionnel. Seul le football féminin ne bénéficiera pas de cette largesse de l'ancien capitaine des Lions Indomptables. Pour en parler, je vous le disais, David Nzima est avec nous. Bonjour David.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Bonjour au Maroc. Bonjour à toute l'Afrique.
Merci d'être là. Alors évidemment, les jours se passent et continuent avec tout le temps des polémiques liées à Samuel Eto'o. Cette fois-ci, Eto'o donc qui d'abord décide d'imposer la veste aux entraînements, qui décide aussi de majorer sans consultation les salaires des joueurs et des entraîneurs. Alors, est-ce que ça passe ou pas, cette décision ?
Elle n'est pas nouvelle, la décision de Samuel Eto'o de majorer, quand vous avez considéré qu'on a majoré, elle n'est pas nouvelle, celle de majorer les salaires des joueurs, non. Elle a été, c'est une déclaration déjà que Samuel Eto'o a faite dès son arrivée à la Fédération Camerounaise de football. Il a demandé que les salaires soient revus à la hausse et elle s'était déjà fixée à 200 000 francs le salaire salaire minimum du joueur de Ligue 1 et à 100 000 francs, je pense, 75 000 francs le salaire minimum de joueur de Ligue 2 et 50 000 francs le salaire minimum de joueur de Guinness Super League, c'est-à-dire la Ligue de football féminin. Aussi la veste imposée, le vestimentaire aux entraîneurs de football sur les bancs de touche des équipes nationales, ce n'est pas nouveau non plus, même si cela se surserait, c'est cette année seulement ça a été pris comme un texte écrit, envoyé aux équipes. Simplement pourquoi? Parce que on a constaté que les entraîneurs camerounais s'habillaient n'importe comment. On a d'ailleurs remarqué qu'il y a un qui est venu sur le banc de touche, qui s'est assis sur le banc de touche d'un match officiel avec un t-shirt qui chantait les louanges du président de la République, de son parti, politique et donc c'était pas, ça n'a pas été une image acceptable puisque le championnat est dorénavant filmé et diffusé partout au monde, dans le monde entier. Et donc voilà les mesures, hein, les mesures. Même si on peut être d'accord avec vous que chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, il y a un nouveau scandale et je pense même que peut-être vous devriez commencer par là, parce que vous savez que on parle de cinq joueuses de l'équipe nationale de volley-ball qui ont été enceintées par les dirigeants de la fédération et cette fédération là qui pour qui le ministre des Sports a toujours demandé une enveloppe au ministère des Finances. Et cette enveloppe qui a été refusée à ce ministère-là, à cette fédération-là, simplement parce que le président de cette fédération avait été élu dans des conditions un peu dantesques et la justice avait donné raison à son opposant, à son adversaire. Eh bien, le ministre a choisi son camp, a installé celui que la justice n'a pas accepté, n'a pas validé. Eh bien, c'est lui qui demande de l'argent et c'est dans cette fédération-là qu'on a enceinté cinq joueuses. On va encore passer par une autre information. Vous savez que le Cameroun présente le plus petit nombre d'athlètes aux Jeux Olympiques. C'est en France, à Paris 2024. On n'en aura que six, deux nageurs. Deux athlètes qui font l'athlétisme, une judokate et une pongiste, la pongiste qui est Sarah Anfou, qui est avocate de profession et qui a dû lever des fonds pour ses amis sur la toile pour s'entraîner et participer aux Jeux Olympiques avec les couleurs du Cameroun. Voilà l'information sportive au Cameroun, sauf si vous en avez d'autres questions.
Moi j'avais une question aussi par rapport j'ai vu passer les déclarations de Léandre Tawamba qui n'est plus sélectionné. Il raconte comment, pourquoi il n'a plus été sélectionné, tout simplement parce qu'il a refusé son maillot à un dirigeant. Ça s'est passé en 2018. Est-ce que cette histoire fait écho un petit peu ou pas du tout au Cameroun, l'histoire de Tawamba?
Elle fait écho simplement sur la toile parce que effectivement, vous savez que aujourd'hui, on est un peu prisonnier de la toile, mais quand il raconte une histoire de 2018, on se rappelle que Léandre Tawamba a été jusqu'à la veille de la Coupe du Monde 2022 dans la tanière des Lions. Moi-même, j'étais dans le vestiaire et Léandre Tawamba avait simplement été laissé le jour du match amical contre la Jamaïque, le dernier match des Lions Indomptables avant de s'envoler pour le Qatar. Donc, s'il raconte une histoire de 2018, alors qu'en 2022, il était dans la tanière, cela veut dire que c'est une histoire qui simplement s'écoule la toile pour rien. Et il a dû certainement dire quelque chose à un de ses voisins, mais il y a pas beaucoup de place pour les attaquants comme ceux des Lions Indomptables qui ne marquent pas beaucoup parce qu'il faut marquer dans les Lions Indomptables pour y rester. Et avec des attaquants comme Muminga Malu, je pense à Brian Toko et Kambi, Aboubakar Vincent qui allait en Coupe du Monde, il y avait pas de place pour Léandre Tawamba étant donné qu'on avait sélectionné à sa place le meilleur joueur du Cameroun, Marouf Waibou, à l'époque qui était au Coton Sport de Garoua et qui avait fait cette épopée de Lions Indomptables au Qatar. Donc une histoire de Léandre Tawamba racontée en 2018, je pense que c'est simplement quelque chose qui revient sur la toile par inadvertance, mais peut-être pas certaines personnes qui ont envie de secouer la toile pour raconter une autre histoire, une histoire de maillot, de simple maillot. Mais je pense que quand on regarde les attaquants qui sont passés à l'équipe nationale, les performances des attaquants passés à l'équipe nationale, on a du mal à comprendre comment Léandre Tawamba s'est infiltré pour être un attaquant des Lions. Donc en réalité, c'est une affaire pour rien. C'est une affaire, un coup d'épée dans l'eau.
Tout à fait. Une dernière information que j'aimerais que tu me confirmes, sur les quatre stades homologués au Cameroun, deux à Douala, un à Garoua et un à Yaoundé, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, c'est bien ça.
Tout à fait, très bien. Quatre stades.
C'est bien ça, il y a le stade de Douala, le stade de la réunification de Douala, le stade de Japoma, celui où... l'Algérie était venue battre le Cameroun avant d'aller se faire battre à Blida.
C'est ça.
Il y a le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, je pense, parce que celui de le tout nouveau stade d'Olembe n'est pas dans la liste. Et puis il y a celui, le stade de Roumdé Adja de Garoua, ouais. Celui dans lequel plusieurs clubs marocains sont déjà venus jouer, celui dans lequel le Coton Sport de Garoua, 18 fois champion du Cameroun, reçoit les équipes étrangères.
Ah, tout à fait. Merci beaucoup à David Nzima qui est en direct avec nous depuis Yaoundé. Et on se donne rendez-vous le week-end prochain, samedi prochain, dans Mars Africa. À suivre, on ira les amis au Bénin, en Tunisie, en République démocratique du Congo. Alors, David me parlait de la plus petite délégation pour les JO, 6 athlètes, mais c'est pareil, hein, David, hein, tu verras que Michel Tobo nous parlera de ces 6 athlètes dans 4 disciplines différentes, la natation, la boxe, l'athlétisme et le judo. 6 athlètes de la RDC, donc ils vont représenter la République démocratique du Congo. Tout cela juste après la pub, parce qu'il est déjà 11h30 sur Radio Mars.
Mars Attaque du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Ahmed Rouissi en compagnie de Linovaco et leurs consultants attaquant la planète Mars sur Radio Mars. Suivez Mars Attaque sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports, partenaire numéro 1 du sport national.
MDJS, faire gagner le sport.
راديو مارس جاي لطنجة جاي نعيشو معكم أجواء الماتش الأول ديال المنتخب المغربي الأولمبي ضد الأرجنتين
مع 10:30 ليكيب ديال علماء مارس حاضرة معكم مباشرة من سوكو ألتو والنقل المباشر للمباراة غادي يكون في بلاطو المريخ الرياضي ابتداء من 2
أجيو عيشو معنا حماس الماتش الأول ديال المنتخب الأولمبي نهار الأربعاء مع 2 مباشرة من سوكو ألتو.
علاش دابا الوقود وين بروتكت بلس ديال وينكسو هو أحسن ما كاين في السوق؟ باختصار، مع الوقود وين بروتكت بلس الموتور كيبقى ديما نقي محمي وأكثر فعالية، كيستهلك قل وكيدوم أكثر، وهذا الشيء كله بنفس ثمن الوقود العادي. داكشي علاش الوقود وين بروتكت بلس اللي كاين في ستاسيونات وينكسو مخير بزاف لا مقارنه مع الوقود اللي كيكون زايد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا بلس. وداكشي وما تنساش راه ستاسيونات ديال وينكسو كاينين في المغرب كامل. وينكسو شركة مغربية بالجودة والرخاء تهلا فيك وفيا.
Merci de nous écouter sur Radio Mars. Vous êtes au cœur de Mars Africa. 11h31 minutes à suivre dans Mars Africa. On ira, je l'espère, au Gabon avec l'actualité au Gabon. Le Gabon qui conserve sa 82e place mondiale le classement FIFA du mois de juillet. Et puis l'actualité au Gabon, c'est aussi Aubameyang qui débarque en Saudi Pro pour 2 saisons. On ira au Bénin avec Élisée Ounkpatine pour parler aussi du classement, le statu quo pour le Bénin. Toujours dans le top 20 africain. Et puis, bien entendu, hein, on ira au Sénégal dans quelques minutes, sans oublier la République démocratique du Congo avec Michel Tobo qui nous parlera de la préparation des athlètes de la RDC pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Juste après, Salif Keita sur Radio Mars, à Morée.
Olhar de nós criança, da dor na brilhada inocência, e na noite se esgritalhada, temporal talvez da mãe não. na brandura e calmaria. Nós amor também descansa, disse luta e resistência, para sobreviver nessa tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor também descansa, disse luta e resistência, para sobreviver nessa tormenta.
Merci de nous écouter sur Radio Mars. Mars Africa se poursuit avec nos correspondants un petit peu partout en Afrique. Après Elisabeth Goulet en Côte d'Ivoire, après David Nzima en direct à Yaoundé. Il y a eu Chérif Alio de Guinée-Conakry pour parler de la préparation de l'équipe nationale olympique pour les JO. Le Mali aussi était au programme. Tiens, on va aller en RDC dans un instant avec notre ami Michel Tobo. Mais d'abord, un passage par le Bénin avec Élisée Ounkpatine. Je vous le disais, le Bénin toujours dans le top 20 africain, le classement FIFA. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Amine Rouissi et bienvenue au Bénin où il fait extrêmement frais.
Ah frais, il fait quelle température? Parce qu'il fait assez chaud ici au Maroc en ce moment.
Ah, depuis près de 3 semaines, c'est entre 23 et 18 degrés.
C'est très supportable. Alors parlons.
Ouais, les nuits sont vraiment froides, hein, il faut le dire.
Ouais, j'imagine. Parlons de l'équipe nationale. D'abord, le classement FIFA juillet 2024. Et je le disais en titre, le Bénin toujours dans le top 20 africain, 19e au classement africain.
Ouais, même si les guépards n'ont pas bougé, il faut le dire. Et ils doivent ce classement, hein, notamment à cette grande performance réalisée lors de la journée FIFA des éliminatoires de la Coupe du Monde où le Bénin a fait forte sensation en battant deux gros de son groupe, notamment le Rwanda qui occupait, qui faisait partie de ceux-là qui jouaient les premiers rôles dans ce groupe 1-0. Et puis le Nigeria, la grande sélection nigériane 2-1, le Bénin n'a jamais battu, d'ailleurs n'a jamais battu le Bénin. Le Nigeria, j'allais dire, excusez-moi, dans un match officiel. Donc, le Bénin réalisait cet exploit-là, ce qui lui a permis de faire un très grand bond dans au classement en occupant la 19e place, ce qui lui permet de rester dans le top 20 du classement africain, du classement mondial FIFA. Donc, vous imaginez, c'est un très grand progrès. C'est vrai que ça n'a pas bougé. Dommage pour les Béninois, mais pour ce mois de juillet, là, le Bénin pourra se contenter dans cette 19e place en attendant d'aborder les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui auront lieu entre décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc. Vous imaginez, le Bénin logé encore dans un groupe où il y a le Nigeria et le Rwanda. Donc, en tout cas, c'est de bon augure, hein, il faut le dire, puisque ça renforce la mentalité, ça renforce le moral. Ouais. Et Guérin Traoré est en train de faire un travail remarquable. C'est vrai que le début a été très, très, très difficile avec 6 matchs sans aucune victoire, vous imaginez, et que dans la foulée, le Bénin se fait éliminer sur le fil par le Nigeria. Donc, c'est quand même une déception côté des Béninois, puisque plusieurs disaient même de le virer et que de faire confiance à un autre entraîneur béninois local, notamment Omar Tchoumogo, qui était déjà à la tête de cette sélection il n'y a pas très longtemps, donc vous imaginez. Donc c'était assez de critiques, mais il faut dire que les 2 victoires enregistrées le mois dernier contre le Nigeria et le Rwanda, eh bien ces 2 victoires ont fait changer d'avis, et on espère vivement que Guénot Rohr fera qualifier le Bénin pour sa première Coupe du Monde de football qui aura lieu au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Puis, mais avant, qualifier d'abord le Bénin pour cette CAN au Maroc, puisque ça fait déjà 2 CAN de suite, hein. Après l'élection d'Égypte, eh bien, le Bénin n'est pas parvenu à se qualifier pour la CAN camerounaise deux ans plus tard. Puis, la CAN ivoirienne qui est très proche de nous, donc vous imaginez, c'est une grosse déception. Donc, ces éliminatoires s'étalent sur 6 mois, puisque ça va commencer en septembre, et 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre, puis 2 matchs en novembre, et on sera clairement fixé sur les qualifiés pour cette CAN qui aura lieu au Maroc. Donc, c'est un très bon classement en attendant pour le Bénin.
Tout à fait. Et nous, on vous attend ici au Maroc pour cette Coupe d'Afrique, je l'espère, Élisée. On espère te voir à venir au Maroc avec notamment l'équipe nationale. À propos des joueurs de l'équipe nationale, c'était dans les coulisses depuis quelques jours. Ça a été officialisé mercredi dernier. Andreas Untunji quitte Caen et s'engage avec le club anglais de Burnley. C'est une bonne nouvelle.
Une très bonne nouvelle, hein, puisque le jeune ailier qui a nettement progressé, Yamin Roussi, il faut le dire, il a nettement progressé et depuis qu'il joue au haut niveau. Donc vous imaginez, une très grande saison en Ligue 2 française lui a permis de s'engager avec Burnley, même si Burnley aussi c'est le même niveau, mais à un cran au-dessus, puisque la deuxième division anglaise est à un cran au-dessus de la Ligue 2 française. Donc c'est quand même la deuxième division toujours, mais un progrès énorme, puisque depuis près de 4 matchs en équipe nationale, eh bien Andrea Routonji a été toujours l'homme du match. Il a toujours fait la différence. En témoigne ces 2 rencontres amicales disputées contre le Sénégal. Vous imaginez, contre le Sénégal, où il a déposé littéralement le latéral gauche français pour adresser un centre en retrait à Steve Mounier, poteau ouvert. Eh bien, l'ex-attaquant de Brest, qui aussi a changé de club puisqu'il évolue désormais en Bundesliga, eh bien, il a raté le poteau vide. Donc, Andreas Routonji a fait une très grande saison avec son club en Ligue 2 française, et même si en fin de saison, il a été marqué par des blessures qui l'ont empêché de ne pas prendre part à ces 2 rencontres contre le Rwanda et le Nigeria. Mais individuellement, il a réalisé une grosse saison, une saison remarquable, ce qui l'a attiré vers l'Angleterre avec Burnley. Burnley qui, il y a de cela 2 saisons, évoluait déjà en première ligue, en première division. Donc vous imaginez, c'est un très bon club pour l'attaquant béninois et une très bonne progression en vue. On espère qu'il va continuer à travailler et retrouver enfin la première ligue anglaise, puisque pratiquement il sera le 3e béninois à avoir joué dans la première ligue anglaise après Stéphane Sessegnon, qui a évolué du côté de Sunderland et de West Bromwich Albion, puis Steve Mounier récemment. Donc il sera probablement le 3e joueur béninois à évoluer dans le championnat anglais.
Tout à fait. Un dernier mot, je voulais savoir que tu éclaires un petit peu ma petite lanterne. L'actualité sportive en ce moment au Bénin, c'est aussi les championnats, le championnat national scolaire. Alors c'est sur plusieurs disciplines, hein. Il n'y a pas que le foot, il y a le basketball. C'est bien ça, Élisée. Il y a le basket, il y a le volley, j'ai vu. Ça se passe en ce moment, cette semaine.
Ouais, avant ce championnat scolaire, il y avait uniquement le football. football, l'athlétisme, puis le handball masculin féminin, le basketball féminin. Et depuis l'année dernière, eh bien, le volleyball a été ajouté. C'est une très grande réussite, hein, il faut le dire, mais une réussite, puisque c'est organisé par l'Office béninois des sports scolaires. C'est un aile, hein, inclus au niveau du ministère des Sports. Et depuis que Oswald Omeki, c'est vrai qu'il n'est plus là et que c'est son compatriote béninois Dato qui continue ses œuvres, Oswald Omeki a implanté de son empreinte, hein, ce championnat scolaire, ce qu'on n'a plus vu depuis très fort longtemps dans ce pays. Eh bien, le championnat scolaire, c'est bien sûr, et cela permettra à la relève, hein, de plusieurs disciplines. Et aujourd'hui, on remarque que les mêmes collèges se font désirer, hein, se font de très bonnes prestations au niveau d'Avrancou. C'est à l'est du Bénin. Avrancou, c'est une commune pas très loin de la capitale Porto-Novo. Avrancou, qui est fait frontière avec le Nigeria, donc c'est là où se disputent actuellement les championnats scolaires. Et vous imaginez, c'est à l'issue de ces championnats que le CG Sainte Rita a fait forte sensation récemment en Afrique du Sud, puis au mondial de scolaire. Donc vous imaginez, le Bénin est en train d'écrire son propre histoire à travers le football scolaire. Le Bénin est en train de progresser dans cette discipline. Quand on parle désormais du championnat scolaire, quand on parle désormais du football scolaire, eh bien, on retient automatiquement en Afrique le nom du Bénin. Donc, c'est un espoir, c'est quand même une très bonne initiative qui va permettre quand même de révéler encore de très bons joueurs, puisque un très jeune joueur issu de ce championnat scolaire vient de signer en Suisse, donc vous en première division en Suisse, à FC Sion. Donc vous imaginez, donc c'est déjà une réussite, hein, par rapport à l'organisation du championnat, et vivement que dans les prochaines années qu'on puisse voir autant d'athlètes, autant de joueurs sortis de ces différentes disciplines, puisque comme je l'ai dit, il n'y a pas que le football, il y a le football, il y a l'athlétisme, il y a le handball féminin masculin, le basketball féminin masculin et le volleyball masculin.
Ouais, tout à fait. Bravo, franchement, c'est top, c'est une très très belle initiative. Merci beaucoup à Élisée Onkpatine de nous donner.
Merci, à samedi prochain.
À samedi prochain. Très beau week-end du côté du Bénin. Bravo, vraiment, très belle initiative, je le disais. Ce championnat national scolaire. Il est midi moins le quart sur Radio Mars. Tiens, direction... Allez, direction le Gabon. Rodrigue Bécalé est parmi nous ce matin pour parler de l'actualité sportive au Gabon. Bonjour Rodrigue.
Bonjour.
Bienvenue, on va parler du classement évidemment de l'équipe nationale du Gabon qui conserve sa 82e place mondiale, le dernier classement FIFA. Et puis l'actualité, c'est aussi Aubameyang, hein, qui débarque en Saudi Pro. Il quitte l'Olympique de Marseille direction l'Arabie Saoudite pour 2 saisons. Ça fait plaisir ou pas cette information? On va commencer d'abord par Aubameyang. Qu'est-ce qu'on dit de lui au Gabon?
Non, je pense que c'est une chose logique au regard un peu de ses performances enregistrées lors de du championnat français il y a quelques mois seulement. Pierre Mélo aujourd'hui, il a le mérite de se retrouver de ce côté, et surtout que Pierre Mélo est presque en train d'aller à la fin de sa carrière. Ne suivons pas trop tout ce qu'il a montré quand il était à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est une satisfaction dans l'ensemble au pays, et ce n'est pas une surprise de fait de voir Pierre-Emerick partir de ce côté-là.
Ouais, tout à fait. Le classement FIFA de l'équipe nationale, 82e place mondiale. J'imagine qu'on a plus d'ambition au Gabon. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce classement et par rapport à l'équipe nationale?
Oui, on est toujours assez statique au regard de ce classement. On ne progresse pas, on n'évolue pas, on est presque sur place. Et le résultat, d'abord, de la mauvaise politique sportive qui ne permet pas l'éclosion d'une certaine jeunesse depuis un bon bout de temps. C'est comme je l'ai dit la semaine dernière, le championnat, les différentes compétitions ne se jouent pas, il n'y a pas de bons résultats. L'équipe nationale essaie de suivre. À ce moment-là, on se pose des questions, quand ça va finir, ce sont des questions qu'on se pose, mais on n'arrive toujours pas à trouver la recette permettant de nous surpasser et d'aller au-delà de ça. Et quand vous essayez de regarder la prestation de notre équipe nationale, elle n'est pas décevante, parce que tout simplement, il y a des joueurs qui jouent dans les secondes zones. On se contente aujourd'hui de l'équipe nationale et non du football général, le football général qui est complètement mort ici au Gabon.
Ouais, tout à fait. Merci, en tout cas, merci beaucoup à Rodrigue Bécalier depuis le Gabon. On va terminer notre Mars Africa en ce samedi 20 juillet, direction la RDC, République démocratique du Congo. Comme chaque samedi, on retrouve bien entendu Michel Toubon, direct de Kinshasa, pour nous parler. Tiens, pour ce week-end, il va nous parler des JO, les préparatifs des athlètes de la RDC. Ils seront 6 athlètes à représenter la RDC dans 4 disciplines différentes. La natation, la boxe, l'athlétisme et le judo. C'est bien ça, Michel Toubon, bonjour.
Bonjour Hamid, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci de me donner encore ce petit moment justement pour réagir par rapport à l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Bien sûr, l'actualité qui reste dominée bien évidemment par les Jeux Olympiques de Paris, la République démocratique du Congo. On doit parler bien évidemment à ces 23e Olympiades hein, avec 6 athlètes dans 4 disciplines principalement. Nous avons l'athlétisme, le judo, la natation et la boxe, comme je vous le disais déjà depuis quelques jours, hein, donc lors de mes précédentes interventions, des athlètes congolais voilà, sont ici à Kinshasa, hormis peut-être le judoka Arnold Dokisoka qui se trouve déjà du côté donc de la France hein. Il a bénéficié d'une invitation voilà du comité d'organisation de ces Jeux Olympiques. Il a fait partie de porteurs de la flamme hein, à la 59e étape qui s'est déroulée dans la commune de l'Aisne à Villiers à Cotteret, voilà, c'est là où il a apporté la flamme olympique. C'est un événement historique, hein. C'est pour la toute première fois qu'un Congolais, tout simplement, que ce soit athlète ou voilà, ou dirigeant, toute catégorie confondue, porte la flamme olympique. Voilà, donc c'est historique. Hein. Donc nous avons relayé, bien évidemment, l'ensemble de la presse nationale en République démocratique du Congo a relayé cet événement avec beaucoup de joie. Donc Arnold Kisoka se trouve déjà du côté de la France hein, où il est en train voilà d'essayer de, on va dire de se pas peut-être de se perfectionner, mais voilà il s'entraîne hein, voilà tout simplement avec au moins des adversaires plus ou moins valeureux qui lui permettront peut-être justement voilà de faire bonne figure lors de ces Jeux olympiques. Il y a également le coureur de 100 mètres, hein, le sprinter du 100 mètres, Dominique Moulumba Lasconi, hein, voilà, qui est également du côté de la France déjà, qui est en train de se préparer. Les 4 autres sont encore ici à Kinshasa et partiront donc de la capitale congolaise à moins qu'il y ait imprévu. Hein, voilà, ce sera le lundi 21, ou disons le dimanche 21 pour atteindre Paris et certainement le lundi 22. Voilà, c'est avec le reste de la délégation qui sera composée d'une trentaine de personnes, on nous apprend du côté du comité olympique congolais. Donc voilà, c'est de cette sorte que les préparatifs sont en train voilà de s'organiser ici à Kinshasa. Voilà, quant aux espoirs de médailles, je vous le disais également hein, lors de mes précédentes interventions, il n'y a pas grand chose à espérer, voilà, à moins des miracles en tout cas, hein, à moins des miracles, il y aura ça sera difficile parce que les athlètes congolais se sont préparés dans des conditions voilà, qui ne sont vraiment pas bonnes hein. Je vous donne tout simplement un exemple, hein, les judokas Arnold Kisoka qui était ici ou encore les deux boxeuses qui sont encore ici à Kinshasa vont combattre d'habitude quand ils y vont dans des compétitions internationales, ils combattent dans des salles, mais il y a des salles qui ont été construites ici pour les 9e Jeux de la francophonie, mais malheureusement, ces athlètes n'ont pas bénéficié de ces salles justement pour s'entraîner. C'est qu'on ne comprend pas, voilà. On a tenté d'avoir des explications du côté des dirigeants, mais pour le moment, il n'y a rien. Donc, voilà, c'est quand même assez difficile ici au pays. Donc, on ne met pas toutes les chances, en tout cas de notre côté, pour tenter de faire des bons résultats, tout simplement. Voilà. c'est avec ces genres de conditions que ces athlètes congolais vont participer donc à ces Jeux. On croise les doigts, bon, même s'il n'y a pas de médaille au bout, mais voilà, qu'ils aient quand même de l'expérience, hein, parce que Marcela Sakobi, l'une des boxeuses, va participer à ses deuxièmes Olympiades. Elle était déjà là à Tokyo il y a 4 ans. Et là, elle va encore participer donc à ces Jeux Olympiques. Peut-être que, voilà, ayant appris toutes les leçons justement de sa précédente participation, elle pourra peut-être faire mieux, bien qu'elle également ne s'est véritablement pas préparée correctement. Voilà, mais si vous les interrogez, hein, ils vous disent clairement que voilà, ils partent pour faire des très bons résultats. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, tout simplement. Voilà, Hamid Roussi, tout ce que j'avais à vous dire par rapport justement à ces préparatifs, hein, du côté de la vie démocratique du Congo concernant à ces Jeux Olympiques. On croisera les doigts et on verra dans la mesure du possible qu'est-ce qui pourra se passer pour la délégation de la vie démocratique du Congo à ces Jeux. Voilà, je vous remets l'antenne. Et voilà, et on se retrouvera certainement le samedi prochain pour parler d'autres actualités sportives et sportives démocratiques du Congo. Bonne continuation à vous.
Merci beaucoup à Michel Tobo et bon week-end. Merci à tous nos correspondants un petit peu partout en Afrique. Michel Tobo en RDC, Elisabeth Gouli en Côte d'Ivoire, David Nzima du Cameroun, Chérif Aliou de la Guinée-Conakry, sans oublier mon ami Élisée Oulpatine du Bénin. Merci à Drissa Nyonyo du Mali ainsi qu'à Rodrigue Bécal. Et on se donne rendez-vous, les amis, le week-end prochain, samedi prochain, pour un nouveau numéro de Mars Africa. D'ici là, je vous souhaite de passer un très très bon week-end sur Radio Mars.
Oh yeah, shake body.